Faut-il sauver Noël ? Nous avons tous entendu dans les médias cette expression, cette drôle de phrase qui est forgée par les circonstances. Il faut sauver Noël. La crise sanitaire qui nous éloigne de nos familles ferme les lieux de réjouissance, de culture, menace notre économie, ne va pas en plus nous voler ce temps fort, Noël, ce temps de consommation, de joie, de rencontre pour tant et tant de gens. Les chrétiens ont aussitôt levé le bouclier de la défense de la foi en rappelant que Noël n'avait pas besoin d'être sauvé. Ni par nous, ni par l'État. L'Église rappelle, martèle avec insistance, que c'est Noël qui sauve. Et qu'il ne faut pas céder à l'illusion de tous ces saluts prêchés par autant de prophètes politiques, scientifiques, laïcs, experts en ceci et en cela, il n'en manque pas, et qui nous offrent tour à tour le salut par le vaccin, le salut par l'économie, le salut par l'écologie, le salut par la culture, etc., etc. Et les mots de l'Ecclésiaste, dont Triomphe vient de nous livrer un florilège, nous aident à penser notre temps, et en particulier cette période de Noël. Alors certains lecteurs de la Bible n'aiment pas trop l'Ecclésiaste à cause de son ton très pessimiste, désabusé, voire cynique. Dans la traduction second, c'est une phrase qui est très connue, c'est « vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent », écrit-il à propos de la vie. Et je pense que ce « il faut sauver Noël » lui inspirerait quelques cinglantes réparties à l'Ecclésiaste. Joie et bonheur dans la course au cadeau, vanité, poursuite du vent. Amasser l'argent et l'or des rois, dit-il, se payer les meilleurs chanteurs, les meilleures chanteuses, c'est écrit un peu plus loin dans le texte. S'offrir les délices de la chair ou cultiver la sagesse, quel avantage y a-t-il à cela ? Interroge-t-il. Mais vouloir au contraire sauver Noël de ses quêtes illusoires du plaisir me paraît être une erreur encore plus grave, celle que les chrétiens commettent cette fois. L'Ecclésiaste ne méprise pas la condition humaine. Vous l'avez entendu. Et il ne faudrait pas que l'Église, avec ses certitudes, ses traditions, vienne maintenant donner leçon à notre société, d'autant qu'elle n'est pas la dernière à goûter les plaisirs en question, l'Église. Ne soyons pas hypocrites. Vous l'avez entendu, et l'Ecclésiaste le reconnaît avec simplicité. Je cite, « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au travail. Cela aussi vient de la main de Dieu, dit-il. » Alors cessons de tirer sur l'ambulance. La consommation n'est pas un péché. Celle de Noël, la consommation de Noël aussi excessive soit-elle, dit quelque chose de la quête de sens, de la recherche de paix et d'amour dont manque profondément notre monde. Cette volonté de sauver Noël, aussi maladroite que soit la formule, j'en conviens, dit la soif de vie, de sens, de plénitude, la soif de Dieu dont l'humanité souffre si cruellement aujourd'hui. Ne la jugeons pas, cette humanité en souffrance et en recherche, mais accompagnons-la. Nous en sommes solidaires. Il se pourrait que, chemin faisant, dans ce compagnonnage de tous avec tous, nous fassions une rencontre lumineuse, fondatrice, celle de l'enfant de Bethléem. Lumière qui éclaire le monde. En elle se trouve la vie qui est lumière des hommes, écrit l'évangile de Jean. Amen. Nous demandons à Noël de nous sauver. Mais de quoi ? Nous pourrions en rester au manger et au boire, au travail et au loisir, dont l'Ecclésiaste a reconnu l'importance et l'origine divine. Au fond, avons-nous besoin d'être sauvés ? C'est en suivant la visite des mages qu'il est possible de trouver une réponse à cette question. Parce que les mages nous adressent un signal. Sans dire un mot, il signifie que nous avons besoin d'être sauvés de notre manière de comprendre Dieu, de comprendre le monde, de comprendre les autres. Il nous envoie ce signal fort que nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes, en quelque sorte, parce que nous faisons fausse route, sans même nous en rendre compte. Depuis 2000 ans que nous lisons ce récit des mages, qu'entre-temps on a fait roi, ce que le texte biblique ne dit pas, auquel on a donné des noms, ce que le texte biblique ne dit pas. Ces mages, en réalité, on trouve normal que ces mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et puis trouvent le chemin vers Bethléem, découvrent là le sauveur du monde. Quoi de plus banal, après 2000 ans de christianisme, nous avons incorporé cette tradition à notre paysage religieux. Nous fabriquons des crèches avec des mages sages comme des images. Mais ce qui est raconté ici est réellement scandaleux. Que des mathématiciens, astrologues, aux croyances païennes, polythéistes, arrivent de Babylone et servent de boussole aux Juifs pour trouver le Sauveur, c'est impensable. De qui se moque-t-on ? Dans ce récit, tous les acteurs sont mieux placés que ces mages pour parler du salut. Hérode, le roi des Juifs, comme chef, il devrait être qualifié pour guider son peuple. Les politiques, nos politiques, ne sont-ils pas censés conduire avec sagesse et droiture la destinée de leur peuple ? Mais voilà, Hérode est un chef malade du pouvoir. Le manque de reconnaissance l'empêche de dormir. Il ne supporte pas d'être contesté. Ça le rend violent. Il vit dans la hantise de la concurrence et du complot. Il se perd dans la nuit de son propre cauchemar. L'étoile ne brille pas pour lui. Bon, il reste quand même les théologiens. Pour sauver ce qui reste à sauver. Alors on les consulte pour comprendre les prophéties, pour découvrir où va naître le Sauveur. Et ils le disent, à Bethléem, c'est écrit. Mais le problème des spécialistes des Écritures, des théologiens, c'est qu'ils savent tout, mais ils ne vivent rien. Leur connaissance les immobilise. Ils savent que le Messie doit naître à Bethléem, mais ils restent plantés à Jérusalem. Plantés dans leur temple, dans leur rituel, dans leur tradition, dans leur conviction. et leur statut religieux. Les mages, eux, ne savent faire qu'une chose, mais c'est essentiel. Ils savent lever la tête, ils savent lever les yeux. Chercher du sens, au-delà de ce qu'ils savent déjà. C'est ainsi qu'ils découvrent le scintillement d'une étoile nouvelle, le chemin d'un salut improbable auquel ils ne songeaient pas. Ils se laissent surprendre, voilà leur force. Ils se laissent entraîner vers l'endroit le plus improbable du monde, Bethléem. Ça veut dire la maison du pain, la boulangerie en hébreu. C'est aussi petite ville d'une banlieue minable de Jérusalem. Marcherons-nous à leur suite ? Sœurs et frères, ou resterons-nous enfermés dans le tombeau de nos certitudes, fussent-elles très chrétiennes ? Resterons-nous dans l'enceinte sécurisée de nos périmètres religieux, protestants, évangéliques ? La foi est une étoile à découvrir. En ce jour de Noël, elle brille pour le monde, pour quiconque, Hérode et les théologiens compris. Elle brille pour quiconque lève les regards au-dessus de son microcosme. Elle conduit immanquablement à l'enfant de Bethléem, Jésus le Christ, l'enfant sauveur, notre frère et notre Dieu. Laisserons-nous Noël nous sauver. Amen.